Induite-vos, viscera misericordiae, beninitatem, humilitatem. Humilitatem. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté et d'humilité. D'humilité. Saint Paul vient de nous rappeler, entre autres vertus, l'importance de l'humilité. Vertu qui semble, aux yeux des hommes, des plus négligeables, des plus méprisables. Elle a été beaucoup dénigrée par la doctrine de l'américanisme et du modernisme. L'américanisme, condamné par Léon XIII, mettait en avant les vertus actives d'apostolat, d'action, et reléguait au second rang les vertus dites faussement passives, d'humilité, de patience, d'obéissance ou encore de mortification. Ces vertus passives, disait-il, n'ont d'importance que pour des esprits négatifs, incapables de rien entreprendre, n'ayant que la force de l'inertie. Il y a là, dans cette exaltation de l'activité naturelle, beaucoup de naturalisme, c'est le cas de le dire, d'oubli de la nécessaire dépendance de Dieu, comme si tout dépendait de nos efforts. L'humilité, au contraire, est une des vertus les plus nécessaires. Tous les bons auteurs spirituels, tous, sans exception, la placent à la base de toute la vie spirituelle. Elle en est le fondement indispensable. Fondement indispensable de la vie spirituelle. Il y a ici une distinction à poser. Car quand on parle de fondement d'un édifice, de ses fondations, il y a deux façons d'entendre la chose, soit négativement, soit positivement. Négativement, cela consiste à déblayer le terrain, à creuser, en vue de recevoir les premières assises de l'édifice. Positivement, cela signifie poser ses premières assises, les premières bases de la construction. Le fondement positif de toute notre vie spirituelle, le pilier de notre vie intérieure avec le bon Dieu, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, nous dit saint Paul dans l'Épître aux Hébreux. Sans la foi, aucune vie spirituelle n'est possible, pas d'état de grâce, donc aucune amitié avec le bon Dieu, aucune vie d'union avec notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Le fondement négatif, c'est l'humilité. C'est elle, en effet, qui écarte l'obstacle principal et radical à toute vie spirituelle. Cet obstacle radical, c'est l'orgueil. L'orgueil, en effet, détruit en nous toute présence, toute influence de Dieu, par une estime déréglée de nous-mêmes, un attachement à notre façon de penser, d'agir, à nos qualités naturelles, réelles ou supposées. L'orgueil de sa vraie nature, nous enseigne saint Thomas, est un péché de l'esprit. En soi, il est moins honteux et moins avilissant que les péchés de la chair, mais ô combien plus grave aux yeux de Dieu, en tant qu'il nous détourne davantage de lui. Pour saint Thomas, l'orgueil est plus qu'un péché capital. C'est la source de tous les péchés capitaux. Il est un amour pervers de la grandeur qui ne supporte pas l'égalité de nos semblables, qui veut leur imposer notre domination. C'est encore un voile, un bandeau sur les yeux de l'esprit qui nous empêche de voir la vérité, surtout sur la grandeur de Dieu et sur les qualités de ceux qui nous dépassent. Il nous interdit de vouloir être instruits par eux. L'orgueil fausse ainsi notre vie comme on fausserait un ressort. Il nous empêche de demander la lumière à Dieu, d'où la parole de notre Seigneur, « Je vous rends grâce, ô Père, de ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents, et de ce que vous les avez révélées aux petits. Aux petits. Il n'y a rien qui détourne davantage de la contemplation des choses divines que cet orgueil de l'esprit. Cependant, l'acte propre, l'acte principal, l'acte le plus élevé de l'humilité ne consiste pas exactement à réprimer les mouvements de l'orgueil. Notre Seigneur et notre Dame, bien qu'il n'ait jamais eu de mouvement d'orgueil dans leur esprit, ont pourtant été à un degré des plus éminents des âmes vraiment humbles. L'acte propre de l'humilité consiste à s'abaisser devant Dieu et devant ce qui est de Dieu en toute créature. Dieu seul est grand, et en comparaison, toutes les grandeurs humaines sont vides de vérité, comme des mensonges. L'humilité, justement, est fondée sur la vérité. Elle s'appuie surtout sur deux dogmes. Tout d'abord, le mystère de la création ex nihilo. Nous avons été créés de rien. Ensuite, sur le mystère de la grâce et de la nécessité de la grâce actuelle. Premièrement, par rapport à Dieu créateur, nous devons reconnaître non seulement par notre intelligence, de façon spéculative, mais aussi de façon très pratique, dans nos actes, dans notre attitude, dans nos convictions profondes, que par nous-mêmes, nous ne sommes rien. De même, sans Dieu, ordonnateur suprême, sans sa providence qui dirige toutes choses, notre vie serait sans direction. Nous devons donc recevoir humblement de lui une direction générale qui nous est donnée par les commandements pour atteindre le ciel. Mais cette direction générale ne suffit pas. Dieu nous donne aussi à chacun d'entre nous une direction particulière dont nous avons besoin pour faire sa volonté. Cette direction particulière nous est manifestée par nos supérieurs, qui sont des intermédiaires entre Dieu et nous. Également par les conseils auxquels nous devons avoir recours, et même aussi par les événements qui se présentent dans nos vies, ou encore, et surtout, par les inspirations du Saint-Esprit. Ici, il faut accepter humblement la place, peut-être fort modeste, que le bon Dieu a voulu pour chacun de nous de toute éternité. Il faut faire sa volonté, non la nôtre. Deuxièmement, le mystère de la grâce et de la nécessité de la grâce actuelle pour poser le moindre acte qui vaille quelque chose pour aller au ciel. Sans une grâce de Dieu, sans un secours ici présent de la grâce de Dieu, je ne peux faire aucun acte qui vaille quelque chose pour la vie éternelle. J'ai besoin d'une aide spéciale de Dieu pour poser un acte qui aura son mérite au ciel. Ce mystère dépasse les forces naturelles de la raison. Il est connu par la foi seule. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien, nous dit notre Seigneur. De plus, nous sommes pécheurs. Nous devons reconnaître non seulement notre indigence, mais encore notre misère. Misère de notre cœur égoïste, de notre volonté portée au mal. Misère de notre esprit qui tombe en des contradictions qu'il pourrait et devrait éviter. Misère de l'orgueil, misère de la convoitise. Cette misère est inférieure au néant lui-même, car elle est un désordre. Elle est un désordre. Pratiquement, que faire pour arriver à la perfection de l'humilité? Il convient tout d'abord de ne pas présumer de nos forces, ni de la patience de Dieu. Pourquoi cela? Parce qu'il y a un manque d'humilité et de prudence à s'engager dans des lieux, dans des activités, d'où il nous sera difficile de sortir, de nous dégager, sans un très grand effort de notre volonté. Des hommes prudents nous ont bien mis en garde, des amis, des parents, des prêtres. Le bon Dieu nous a aussi sans doute fait sentir qu'il n'était sans doute pas fort bon pour nous de nous engager dans tel lieu, dans telle action. Ici, l'humilité vient au secours de la prudence. D'autant que dans la formation des vices, nous gardons une assez grande liberté dans les premiers actes. La première cigarette n'engage pas à grand-chose. Il est encore possible d'arrêter facilement de fumer sans trop d'efforts. Mais une fois qu'un vice a été contracté par répétition des actes, et là, le nombre d'actes nécessaires pour contracter un vice dépend de nous et du vice que nous contractons. Ensuite, c'est une autre affaire pour se dégager. Plus nous posons des actes vicieux, plus nous perdons de liberté. Combien il est plus difficile d'arrêter de fumer après 10 ans de tabac quotidien. Il y a, aujourd'hui, un vrai danger pour sa vie spirituelle, cette vie d'union avec le bon Dieu, à s'exposer sans mesure, sans raison suffisante, au monde des écrans. Il est évident que les écrans sont un danger pour la pureté, mais il y a d'autres dangers. Les jeux informatiques, par exemple, auxquels s'adonnent un grand nombre de jeunes gens, y compris dans la tradition. Difficile, en effet, ensuite, de prendre un bon livre, de poser son intelligence sur de réels problèmes, des choses de la vraie vie. Une fois qu'on est de retour chez soi, la seule chose qui compte, c'est de retourner sur son écran pour jouer. Et plus on joue, plus on est pris, et plus il est difficile de couper. Pensez-vous qu'un saint jouerait sur ordinateur? Question. Mais avons-nous été créés par Dieu et rachetés par le sang de son propre Fils pour être autre chose que des saints? Notre Seigneur sur la croix, quand il verse son sang, quand il souffre pour nous, est-ce qu'il a en tête autre chose pour nous que la sainteté, que le ciel? Dans un registre voisin, il convient aussi de parler des réseaux sociaux. Ici encore, certains y passent un temps considérable. Ils publient des photographies d'eux-mêmes, et là, il y a toujours de l'orgueil à se mettre en valeur. Ils alimentent aussi un grand nombre de conversations où s'étale une certaine vanité, ou pour mieux dire, une vanité certaine. Et notre vie intérieure, cette vie d'union avec le bon Dieu, cette vie d'amour de notre Seigneur, cette vie d'amour, de soumission à sa volonté, avec notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Outre le fait de ne pas présumer de nos forces ni de la patience de Dieu, un autre effort pratique s'impose à nous si nous voulons être humbles. Bien se comporter à l'égard des éloges et des reproches. Par rapport aux éloges, tout d'abord, ne pas se louer soi-même. « Qui se loue se salit », nous dit un proverbe italien. Ceux qui se louent trouvent sans doute qu'ils ne sont pas assez loués par les autres. De plus, ne pas rechercher les éloges, c'est se rendre ridicule et surtout, c'est perdre le mérite de nos bonnes actions. Enfin, ne pas se complaire dans les éloges que nous n'avons pas recherchés. Si ici, il y a moins de risques à perdre tout le mérite, nous en perdons quand même une partie. Mais il faut monter encore de quelques degrés en se comportant comme il faut par rapport aux reproches, en acceptant patiemment les reproches mérités, surtout lorsqu'ils viennent des supérieurs. Ceux-ci ont le droit et le devoir d'en faire. Si nous nous révoltons intérieurement ou si nous nous renfrognons, nous perdons le bénéfice de ces justes observations. Il convient aussi d'accepter patiemment quelquefois un reproche peu mérité, voire immérité. Saint Thomas d'Aquin, encore novice, fut repris injustement à la lecture au réfectoire pour une faute de latin. Comme cela lui était demandé, il se corrigea. En récréation, ses frères étaient étonnés. « C'est vous qui aviez raison. Vous aviez bien lu. Pourquoi vous êtes-vous corrigé ?» Il répondit « Mieux vaut, aux yeux de Dieu, une faute de grammaire qu'un manque d'obéissance et d'humilité. Mieux vaut une faute de grammaire qu'une faute d'obéissance et d'humilité. Profonde réponse. Enfin, il conviendrait de demander l'amour du mépris en se rappelant les exemples des saints. Saint Jean de la Croix, à notre Seigneur qui lui disait « Que voulez-vous comme récompense ?» répondit « Être méprisé et souffrir par amour pour vous. » Et quelques jours après, il était exaucé et de la manière la plus douloureuse. Il fut traité d'une façon à peine croyable, comme un religieux indigne. Il fut même jeté en prison par ses propres frères en religion. De même, saint François d'Assise disait au frère Léon « Si lorsque nous serons arrivés ce soir à la nuit, à la porte du couvent, le frère portier ne veut pas nous ouvrir, s'il nous prend pour des voleurs, nous donne des coups, nous laisse toute la nuit dehors sous la pluie et au froid, c'est alors qu'il faudra dire « Santa Letizia ». Quelle joie ! Quelle joie, Seigneur, de souffrir pour vous et de vous devenir un peu semblable. Les saints sont montés jusque-là. Laissons donc la conclusion à l'un d'entre eux, à saint Augustin. Il a écrit dans le même sens « Deux amours ont construit deux cités, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité de Dieu, et l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité du diable. » Alors la question qui nous est posée, quelle cité voulons-nous bâtir dans notre âme? Celle de Dieu ou celle du diable? Celle de Dieu, n'est-ce pas? Assurément. Alors, nous ferons effort pour avoir d'humbles sentiments de nous-mêmes et pour nous donner les uns aux autres le bon exemple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.